Bonjour à tous, Liliane sur Radio Grand Ciel pour l'émission Figures de l'Histoire. Louis XVI vient d'être couronné. Il essaie de gouverner avec l'aide de son mentor, dont je vous ai déjà parlé, Maurepas. Il a quelques ministres, Turgot, Vergennes, Miroménil. Turgot voudrait bien que Maurepas soit le premier ministre, alors lui, il ne veut pas. Il se tourne alors vers Malesherbes. Malesherbes, c'est quelqu'un de très intéressant, c'est un magistrat, philosophe, président de la Cour des Aides, qui vient d'être reçu à l'Académie française, absolument passionné par le droit, et la philosophie politique. Eh bien, Malesherbes écrit au roi pour lui demander d'établir une communication directe avec la nation, et que ce serait bien par l'intermédiaire, par exemple, d'États provinciaux qui défendraient les pauvres, les faibles et les opprimés. Eh bien, c'est non. Donc Malesherbes ne veut pas faire partie du gouvernement. Alors, désappointés, Maurepas, Turgot et Véry reviennent à la charge. Finalement, il accepte, en demandant au roi de s'occuper dès maintenant du choix d'un successeur. Tout le monde est enchanté, sauf la reine, qui voudrait bien voir revenir qui Choiseul. Elle voudrait bien que Turgot soit renversé, parce que Choiseul, c'est un homme qui encense beaucoup la reine. Turgot, alors, s'attaque à des réformes. Il s'occupe du réseau routier, qu'il vraiment étatise. Les routes et les voitures sont améliorées, voitures que l'on surnomme d'ailleurs des turgotines. Et désormais, on va de Paris à Bordeaux, écoutez ça, en moins de 6 jours contre 14 auparavant. Turgot veut aussi transformer l'administration. Alors il s'en ouvre à Louis XVI, ce dernier commence à s'impatienter contre ce ministre qui a des lumières sur tout, qui veut tout réformer, qui veut tout régenter. Le roi devient tout à fait ombrageux, c'est lui qui a le pouvoir, ça n'est pas M. Turgot. Turgot alors renonce à son grand dessein et voilà que les critiques pleuvent. Ah, la reine, elle-même ne l'aime pas, elle a des critiques parfois brutales, la cour, des critiques qu'on peut qualifier aussi de stupides. Maurepas reçoit même une lettre anonyme qui lui dit que Turgot veut prendre la place. Sa place à lui. Les financiers s'y mettent, pourtant en Europe, il est admiré. Cependant, Louis XVI tient un lit de justice. Je vous rappelle qu'il vient au Parlement et il ordonne qu'on enregistre ce qu'il a décrété et le Parlement ne peut pas faire autrement. Alors, il fait enregistrer les réformes de Turgot. Mais aussitôt après, le roi donne des signes de découragement. Il s'intéresse moins aux affaires, on dirait qu'il a épuisé toute son énergie. Alors, est-ce qu'il éprouve le sentiment d'avoir été trop loin dans les réformes ? L'entourage de Louis XVI se déchaîne contre Turgot. La reine n'est pas la dernière. Malesherbes en a par-dessus la tête, il démissionne, car lui, il voulait réformer la justice et finalement faire des coupes sombres dans les dépenses de la cour. Alors ça, c'est le hic, hein, parce que Turgot demande même une audience à Louis XVI pour lui expliquer que vraiment les dépenses doivent être diminuées. Eh bien, Louis XVI refuse de le recevoir. Il est démis de ses fonctions, victime de la cabale de la reine, finalement, et de la coalition, des privilégiés et de la peur du roi de voir la monarchie changer. Une large fraction de l'opinion éclairée est déçue, en particulier quelqu'un qu'on connaît bien, M. Voltaire. Le roi cherche alors un successeur et il nomme Jean-Étienne Bernard de Cluny, une créature de Choiseul. Il persuade Louis XVI de réduire à néant toutes les réformes de Turgot. Eh bien, Louis XVI accepte. La gestion de ce nouveau ministre est absolument catastrophique. J'allais dire, heureusement, Il décède le 18 octobre. Alors Maurepas se dit qu'il ne va pas laisser le roi libre de son choix, parce qu'apparemment le roi il choisit mal. La situation financière s'est aggravée, les banques refusent les crédits, et depuis plusieurs mois, Maurepas pense à un ministre résident de la République de Genève à Paris. Il s'agit de Jacques Necker. À Paris, le salon de Madame Necker accueille de grands esprits, quand on dit de grands esprits, c'est-à-dire des gens qui veulent voir changer l'état du royaume. C'est par exemple Marmontel, c'est Grimm, c'est Diderot, c'est Buffon. Necker rencontre secrètement Louis XVI. Il sait que Louis XVI est timide, alors lui-même fait semblant de l'être. Le roi est donc tout à fait à l'aise et il est troublé parce que Necker est suisse. Mais surtout, il est protestant. Alors il le nomme cependant aux finances. Necker a 44 ans et il impressionne. J'ajoute que son orgueil est immense. Oui, il pense que des réformes doivent être progressives, mais qu'elles vont permettre au vieil édifice monarchique de survivre. Il préfère, lui, le système anglais. Je vous rappelle que dans le système anglais, le roi règne mais ne gouverne pas. Une précision, bien qu'il soit à la tête des finances, Necker est exclu de tous les conseils. Ça, c'est une grosse erreur de Louis XVI. Alors, laissons maintenant un petit peu M. Necker pour revenir au roi et à la reine. Cette dernière n'est toujours pas enceinte. Les relations conjugales sont rares, sont décevantes. Et à Vienne, la maman, Marie-Thérèse, l'impératrice, elle se désespère. Elle se trouve trop âgée alors pour aller rencontrer sa fille pour la sermonner un petit peu. Donc elle envoie qui ? Son fils, le futur Joseph II, que déjà elle a pris avec elle pour gouverner le royaume. Donc quand il sera empereur, il sera comment gouverner ? Deux fois veuf. Il n'aime pas la compagnie des femmes. Il est autoritaire, il est sérieux, il n'est pas très drôle. Il affiche une simplicité, mais qui se transforme vite quand il est contredit en un ton tout à fait autoritaire. Alors le voilà arrivé, le 18 avril 1777. Il ne veut pas loger à Versailles, il l'aime pas. Alors il loge carrément à l'hôtel. Marie-Antoinette, elle est tout à fait heureuse de revoir son frère. Et elle lui raconte tous ses malheurs. Elle les raconte en allemand. La rencontre avec Louis XVI est cordiale. Les entretiens qu'ils ont deviennent de plus en plus confiants et intimes, si bien que l'empereur arrive à convaincre son beau-frère de subir la petite opération qui arrangerait tout pour avoir un héritier. Nous allons faire une première pause musicale. Nous sommes sur Radio Rentiel, je vous raconte la vie de Louis XVI qui vient de renvoyer Turgot et qui a appelé aux finances le Suisse Necker. Et là, il reçoit la visite de son beau-frère, le frère de Marie-Antoinette, le futur empereur Joseph II. Et ils s'entendent bien tous les deux, au point que le beau-frère réussit à lui dire ben, « il faut vous faire opérer parce que comme ça, les choses vont s'arranger pour avoir un héritier ». Juste avant de repartir en Autriche, il tense sa sœur sur sa frivolité et ses dépenses. Les dépenses de Marie-Antoinette sont, j'allais dire, faramineuses. Enfin, le 19 avril 1778, Marie-Antoinette dit à sa mère qu'elle a des espérances de grossesse. C'est alors que débarque à Paris un Américain dont je vous ai déjà parlé, Benjamin Franklin, qui vient demander l'aide de la France pour les colons américains qui sont en conflit avec la Grande-Bretagne et qui veulent absolument leur indépendance. Quand je dis le colon, ce sont les 13 États qui se trouvent à l'est des États-Unis. Eh bien, Louis XVI est d'accord pour s'opposer, bien sûr, à la vieille Angleterre qui est notre ennemi perpétuel. Donc, des particuliers viennent aussi dire qu'ils veulent s'engager et venir en aide aux insurgés, mais vous les connaissez bien sûr, ce sont le marquis de Lafayette et Rochambeau. Le 6 février 1778, la France reconnaît officiellement les États-Unis. Le moment de la délivrance de la reine approche, on espère un dauphin. Ah, c'est une fille, Marie-Thérèse, qu'on va appeler Madame Royale. Donc maintenant, nous allons revenir à Necker. Lui aussi, Necker veut faire des réformes qui font hurler le monde de la finance et surtout la cour. Il arrive tout de même à réformer les hôpitaux en commençant par l'Hôtel Dieu. Après 6 ans de règne, Louis XVI ne gouverne toujours pas lui-même. C'est Maurepas, Vergennes et Necker qui détiennent la réalité du pouvoir. Et on peut dire que le roi subit ses ministres. Il les suit tant qu'il ne lui demande pas de faire violence à ses principes, tant qu'il lui trace la voie de la facilité. S'ils exigent une remise en cause de ses idées, si leur projet réclame une audace véritable, eh bien, que fait Louis XVI à ce moment-là? Il les renvoie. Alors, voilà que Necker, donc, publie un texte. Et le texte s'appelle « Compte rendu au roi pour l'année 1781 ». C'est bien la première fois qu'un ministre fait un compte-rendu officiel des finances. Alors, ce texte fait l'effet d'une bombe. Necker révèle les secrets des finances françaises. Eh bien, vous savez ce qui se passe. Necker est démissionné. Louis XVI nomme alors à sa place Joly de Fleury. Et bien sûr, ce dernier détruit l'œuvre de son prédécesseur. En attendant, la reine est à nouveau enceinte et un autre événement important s'est produit. Elle est tombée amoureuse d'un beau gentilhomme suédois, le comte Axel Fersen. Elle l'attire à la cour, l'invite à son jeu, lui témoigne ostensiblement un intérêt exceptionnel. Eh bien, le pauvre Louis XVI, lui, n'en voit rien. Pour l'instant. Le 22 octobre 1781, Marie-Antoinette donne naissance à un fils. Eh bien, le roi en pleure de bonheur. Les frères du roi, eux, font grise mine parce que jusqu'alors, ils étaient les héritiers, bien sûr, et ils voient le trône s'éloigner. Le peuple de Paris, lui, est tout à fait content et fait la fête. Le 18 novembre, Maurepas décède. Alors Louis XVI, il en est vraiment navré. Pour lui, c'était presque comme un père, hein, et il dit qu'il vient de faire une grande perte. Il ne lui donne pas de successeur. Grâce à Vergennes, le roi continue à mener de main de maître les affaires étrangères. Quand je dis de main de maître, c'est pas le roi, hein, c'est Vergennes. Mais il éprouve les plus grandes difficultés à dominer les pressions extérieures. Les problèmes budgétaires deviennent extrêmement graves parce que la guerre d'Amérique a engouffré des sommes absolument énormes. La cour dépense des sommes faramineuses. Je vais vous donner un exemple. Rien que pour la layette du petit dauphin, on a dépensé 284 000 livres. Ça ferait des milliers d'euros chez nous. Hein. Louis XVI alors appelle aux finances un bon petit jeune homme bien honnête qui s'appelle Lefèvre d'Ormesson. Un ancêtre de notre d'Ormesson. Alors, vraiment, on peut dire que sa gestion est épouvantable, je dirais même catastrophique. Alors, on change et le roi en appelle un autre aux finances qui s'appelle Calonne et il prend ses fonctions le 3 novembre 1783. La situation ne s'arrange pas et Necker fait paraître un ouvrage sur la gestion de la France et cet ouvrage remporte un grand succès. Louis XVI, lui, croit que tout va bien. C'est incroyable, vraiment. Hein. Il chasse. Il rêve de grands voyages, il médite sur l'utilité des montgolfières. Il s'intéresse, ça, on ne peut pas lui enlever ça quand même, hein. Il s'intéresse aux découvertes scientifiques. Il collectionne les cartes et les récits des navigateurs. Par exemple, il est fasciné par le navigateur anglais, le capitaine Cook. Ce dernier, une fois mort, le roi s'adresse au lieutenant de vaisseau Lapérouse, un Français donc, pour monter une expédition d'exploration dans le Pacifique afin de remonter la côte ouest de l'Amérique du Nord pour découvrir des possibilités de commerce. Le 1er août 1785, là donc Pérouse part avec un navire qui s'appelle la Boussole, et puis on lui a adjoint De Langle qui est sur un bateau qui s'appelle l'Astrolabe, et les voilà partis, ils quittent Brest. Eh bien, ils ne reviendront jamais. Le 25 mars 1785, Marie-Antoinette met au monde un second fils auquel le roi décerne le titre de duc de Normandie. Il est au comble de la joie, Louis XVI. Cependant, l'impopularité de la reine va croissant. On s'est rendu compte de ses rapports avec Fersen et de ses dépenses absolument impressionnantes. Le roi la gâte tout le temps, on dirait qu'il a un petit peu peur d'elle. Il lui achète pour 6 millions de livres le château de Saint-Cloud. Elle raffole des ballets, du théâtre, et voilà qu'elle va s'enticher de quelqu'un dont j'ai raconté la vie, de Beaumarchais. Elle veut faire jouer la pièce « Le mariage de Figaro ». Le roi demande quand même à la lire avant. Il la lit et il dit qu'il ne peut pas tolérer la critique des institutions. Et il ajoute, et je cite Louis XVI, « C'est détestable, cela ne sera jamais joué. Il faudrait détruire la Bastille pour que la représentation de cette pièce ne fût pas une inconséquence dangereuse. Cet homme se joue de tout ce qu'il faut respecter dans un gouvernement. Il voit dans la pièce une attaque sérieuse portée contre le vieil édifice monarchique. Les protecteurs de Beaumarchais décident alors de braver Louis XVI et de faire jouer la pièce par la Comédie-Française. 10 heures avant l'ouverture, la capitale entière, on peut dire, est aux portes du théâtre. Et voilà qu'arrive une lettre de cachet signée du roi. La représentation est interdite. Eh bien, cette défense paraît une atteinte à la liberté. On parle de tyrannie, d'oppression. La reine elle insiste quand même auprès de Louis XVI. Et Beaumarchais dit « Ah bien alors, je vais faire quelques petites modifications au texte. » Elles seront légères, les modifications. La pièce se joue. Monsieur revient, alors monsieur c'est le frère du roi, hein, très en colère après l'avoir vu. Beaumarchais alors est arrêté, mais l'enthousiasme des spectateurs ne se dément pas. Grands seigneurs et petits bourgeois applaudissent en même temps les tirades qui condamnent la noblesse et tout le système en place. C'est alors qu'éclate en juillet 1785 l'affaire du collier. Nous allons faire une deuxième pause musicale. Nous sommes sur Radio Grand Ciel, je vous raconte la vie de Louis XVI et je viens de parler de la représentation du mariage de Figaro, de Beaumarchais qui a été emprisonné parce que, oh horreur, tout ce qu'il dit dans sa pièce est contre le système. Et je viens de vous dire, c'est alors qu'éclate en juillet 1785 l'affaire du collier. Alors vous la connaissez beaucoup, donc je vais résumer. Hein. Le cardinal de Rohan est arrêté parce qu'il a acheté le collier pensant que la reine le lui avait commandé. Il est conduit à la Bastille et on sait maintenant qu'il s'est fait berner. Mais il y a un procès et ce procès scandaleux où un prince de l'Église est accusé de recel et de vol de bijoux où la reine de France passe pour une dévergondée. Eh bien, ce procès alimente toutes les passions. Marie-Antoinette, qui n'est jamais parue comme témoin au procès, demeure suspecte aux yeux de bien des gens, si bien que l'affaire devient politique. À la fin du procès, le cardinal est acquitté. L'aventurière qui s'est donc fait passer pour la reine Madame de Lamotte est condamnée à être flétrie au fer chaud et enfermée à perpétuité à la Salpêtrière. À Paris, les magistrats jubilent. Le peuple applaudit à la fois le cardinal Et le Parlement, je rappelle que le Parlement, à l'époque, c'est la Cour de justice. Louis XVI, alors, exile Rohan dans son abbaye de la Chaise-Dieu. Le roi croit ainsi que tout est fini. Il ne voit pas que l'acquittement du cardinal compromet définitivement l'honneur de sa femme, donc évidemment le sien, et que ça marque la revanche du Parlement sur la monarchie absolue, puisque le Parlement a décrété que le prince de Rohan a été blanchi. Les finances vont toujours très mal, ça c'est vraiment un refrain que vous m'entendrez souvent dire. Le roi se résout alors à appeler qui donc ? Eh bien, il rappelle Necker. Louis XVI, complètement découragé, lui dit « Ah monsieur, voilà bien des années que je n'ai pas eu un instant de bonheur. » À quoi Necker répond « Encore un peu de temps, sire, et vous ne parlerez plus comme cela. » En fait, le roi rappelle son ministre contraint et forcé. Il le considère comme imposé par l'opinion publique, et ça, ça déplaît fort à Louis XVI. Donc, il arrive au pouvoir, ce Necker, dans les pires conditions. Le prix du pain augmente sans cesse, il y a des émeutes partout. Alors, il suggère de convoquer les États généraux pour janvier 1789, ce qui ne plaît pas du tout à Louis XVI. Je vous rappelle que le roi convoquait toujours les États généraux quand il s'agissait de finances pour qu'il l'autorise à avoir des sommes importantes. La nation les réclame, ces États généraux, mais le roi s'effraie du moindre changement apporté aux sacro-saintes lois fondamentales du royaume. Lui, il veut absolument conserver intact le royaume tel qu'il l'a reçu. Il ne veut rien concéder de l'héritage de ses pères. Il ne voit pas qu'il commence à y avoir divorce entre le souverain et la nation. Dans les grandes villes, par exemple, il y a énormément de clubs. Il y a des regroupements où on discute, des sociétés de toutes sortes, des loges maçonniques aussi, des cafés. Et dans ces cafés, eh bien, on parle, et que dit-on ? On dit que on vit sous le despotisme et la féodalité, et qu'il faut changer tout ça pour la liberté et l'égalité. Et ce sont des idées qui se répandent dans toute la France. Il y a même une avalanche de journaux et de brochures qui submergent le royaume, où ces idées-là, évidemment, sont écrites. On ne le sait pas, ça. Enfin, peut-être le savez-vous. Mais beaucoup de nobles, finalement, sont acquis aux idées nouvelles. Je vais vous en citer quelques-uns. Ben, Lafayette, pour commencer. Le vicomte de Noailles, par exemple. Le duc de La Rochefoucauld-Liancourt. Et puis un jeune prélat dont je vous ai raconté la vie. Talleyrand, monsieur de Talleyrand-Périgord. Un comte s'impose même par son talent. C'est le comte de Mirabeau. Un prêtre que l'on connaît à Chartres, c'est Sieyès. Il y a une borne juste en bas de la rue des Trois Degrés qui montre où il habitait. Lui, il affirme la souveraineté du peuple. Tous ces patriotes qui veulent donner une constitution démocratique au royaume n'en restent pas moins de fervents monarchistes. Finalement, ils veulent un roi constitutionnel. Les États généraux donc se préparent, le roi se prononce officiellement, parce qu'on le lui a demandé, pour le doublement du tiers-État, afin qu'ils aient autant de voix que la noblesse et le clergé réunis. L'ouverture est prévue le 27 avril 1789 à Versailles. La situation financière semble se stabiliser, mais grâce à des expédients, et voilà qu'une crise économique sans précédent s'abat sur le royaume. Inondations, sécheresses, même de la grêle un 13 juillet. C'est la famine. Le peuple alors se révolte, on pille les boulangeries, les soldats interviennent, mais on peut dire qu'ils interviennent mollement. En même temps se préparent les élections et la rédaction de cahiers. On a demandé à ce que tous les gens qui vont participer aux États généraux écrivent sur des cahiers tout ce qui ne va pas ou tout ce qu'ils souhaitent. Dans ceux du tiers d'État, on affirme la volonté d'un changement sur le plan politique et sur le plan social. Dans les élus du tiers-État, c'est-à-dire le troisième ordre, on compte beaucoup d'hommes de loi, d'avocats, comme par exemple Maximilien de Robespierre. L'un des personnages les plus en vue, c'est l'abbé Sieyès, qui a fait publier une brochure absolument incendiaire qu'il a appelée « Qu'est-ce que le tiers-état ?» Un prince de sang s'est même fait élire à Paris, c'est le duc d'Orléans, le cousin du roi. Chez la noblesse, on compte un tiers de libéraux. Dans le clergé, les curés aux idées avancées remportent la majorité des sièges. Sont élus aussi l'évêque d'Autun, Talleyrand par exemple, l'évêque de Bordeaux, champion de Circé. Le roi, pendant ce temps-là, fait face à la mort du dauphin. C'est absolument un effondrement, mais le pauvre gamin, il est né déjà complètement difforme. Finalement, les états généraux s'ouvrent le 5 mai 1789. La veille, on se rend à la cathédrale Saint-Louis. Le roi est ovationné au passage, et quand la reine passe, il s'établit un silence glacial. Le 5, les députés s'installent dans l'hôtel des menus plaisirs. Clergé et noblesse de chaque côté du roi, et tiers état en face. Louis XVI alors déclame son discours, il salue les états généraux comme une nouvelle source de bonheur pour la nation. On peut dire que tout ça, ça a été soufflé par Necker. Hein. À plusieurs reprises, le roi est interrompu par des applaudissements. Et puis maintenant, voilà Necker qui parle. Et on s'attendait à ce qu'il parle de la Constitution. Eh bien, les gens sont déçus parce qu'il n'en parle pas. Le discours, c'est un discours modéré et trop technique sur les finances. Finalement, les trois ordres se méfient de lui. Le lendemain, le tiers-état veut que ces trois ordres délibèrent ensemble. Cette attitude du tiers stupifie absolument le roi et la cour. Comment on ose faire ça ? Pour le roi, le monde bascule. Finalement, le tiers-état se proclame Assemblée nationale le 17 juin. Il veut donner une constitution à la France. Allez, bien, on peut dire que le roi, quand il entend ça, il est frappé en plein cœur. Il tient conseil avec ses frères, qui lui disent « Ne vous laissez pas faire, il faut dissoudre les états généraux ». À l'insu des députés, on a fermé la salle où ils devaient se réunir. Donc, ils changent de salle, ils s'installent dans la salle du jeu de paume et ils prêtent serment le 20 juin de ne pas se séparer avant d'avoir donné une constitution à la France. On peut dire que c'est le début de la Révolution. Le 23 juin, Louis XVI tient une séance dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle est maladroite et que le tiers d'État, humilié et furieux, demeure sur place et médite sa revanche. Arrive alors le marquis de Rebrézé qui veut faire évacuer la salle. Alors vous connaissez tous l'apostrophe de Mirabeau. Je vous donne tel que... On la modifie un peu, hein, mais voilà ce qu'il a dit exactement. « Nous ne quitterons nos places que par la force des baïonnettes. » Alors de Rebrézé, il est horrifié, il se précipite chez Louis XVI pour lui rendre compte de ce que vient de dire Mirabeau. Et le roi répond « Eh bien, qu'il reste !» Pressé par Necker, Louis XVI dit « Je pense bien que je vais vous démissionner. » Finalement, le roi reconnaît l'Assemblée nationale, mais il fait rassembler tout autour des régiments. En fait, il entreprend ce qu'on peut bien appeler une contre-révolution. Le départ de Necker laisse présager la dissolution de l'Assemblée nationale, la disette, la banqueroute, c'est l'agitation dans Paris. Le jeune journaliste Camille Desmoulins exhorte les patriotes à prendre les armes. C'est l'effervescence. Et c'est, le 14 juillet, la prise de la Bastille. Le roi ne se rend pas compte du tout de la situation. L'Assemblée exige que Louis XVI vienne à Paris. Certains aristocrates pensent que ça commence à sentir le soufre et ils se dépêchent de partir à l'étranger. Le roi quitte Versailles alors le 17 juillet et à Paris, il est reçu à l'hôtel de ville par Bailly, c'est le maire, qui lui propose la cocarde tricolore. Avant, la couleur de la royauté, c'était la couleur blanche. Hein. La cocarde tricolore, eh ben, le roi la met à son chapeau. Et il retourne à Versailles, qui s'est beaucoup vidé. Les valets n'assurent même plus le service. Marie-Antoinette s'occupe de ses enfants. Et Louis XVI appelle Necker au secours. Ce dernier vient et il retrouve un souverain qui sait moins que jamais ce qu'il convient de faire. Necker est bien reçu à l'Assemblée. Il constitue un gouvernement, mais c'est un peu tard pour juguler le mouvement populaire. Nous sommes le 4 août. C'est une nuit mémorable où le vicomte de Noailles, répondant aux vœux populaires, propose l'égalité devant l'impôt et l'abolition définitive des vestiges de la féodalité. Il faut se souvenir que c'est un noble qui a proposé ça. Certains de mon collègue ajoutent même « abolition de tous les privilèges ». Eh bien, au lendemain de cette nuit, la société d'ordre, on peut dire, elle est morte. Le tiers-état a triomphé. Louis XVI est absolument horrifié et il dit qu'il n'acceptera jamais cette situation. Eh bien, il va falloir qu'il s'y fasse. Hein. L'Assemblée accorde au roi son droit de veto, c'est-à-dire qu'il peut s'opposer à une loi, mais il n'a plus l'initiative des lois. Louis XVI, finalement, va de déconvenu en déconvenu, d'humiliation en humiliation. Et il en veut beaucoup à Necker, il dit que c'est sa faute. Le peuple ne parle plus que d'un complot aristocratique et d'une contre-révolution. Alors un cortège de femmes, on peut dire même fort en gueule, des faubourgs Saint-Antoine et des Halles, veulent protester auprès du roi des difficultés de leur vie quotidienne. Qu'est-ce qu'elles veulent faire? Elles veulent se rendre à Versailles. La nouvelle arrive au roi et à la reine. Un conseil se tient, on envisage de faire intervenir le régiment de Flandre et les gardes suisses. La foule arrive. Elle s'approche des grilles qui sont fermées, mais elle arrive à trouver une petite grille sur le côté ouverte. La cour est envahie, ainsi bien aussi les appartements. Un garde du corps est massacré, la famille royale se réunit, les ministres sont là aussi, la populace se déchaîne, tue, exige de ramener le roi et sa famille à Paris. Alors Lafayette organise le départ. La famille royale part en carrosse. Des poissardes se montrent à la vitre de la portière royale et insultent la reine. Après 6 heures harassantes, le roi atteint les barrières de Paris. On le conduit à l'hôtel de ville pour que la famille royale se montre au balcon, ce qu'elle fait. On l'acclame parce qu'elle n'a plus de pouvoir. Ensuite, direction les Tuileries. Nous sommes le 6 octobre 1789. La famille s'entasse comme elle peut. On fait venir des meubles de Versailles. La foule est toujours dans les jardins. Elle veut voir le roi et la reine, parce qu'elle s'imagine qu'ils vont se sauver. Tous les deux s'occupent de leurs enfants. Et ça convient tout à fait à Louis XVI. Il trouve cette vie-là épatante. Et il prend une décision qui va lui coûter cher officiellement. Il donnera des gages de bonne volonté à l'Assemblée et à son peuple. Mais j'ajoute, tout en encourageant secrètement la contre-révolution. Il l'écrit d'ailleurs au roi d'Espagne. Il demeure persuadé que la révolution n'est que le fait d'une poignée de factieux agités et que l'ordre va se rétablir avec le temps. En attendant le retour de cet âge-là, il considère qu'il est prisonnier, finalement, et qu'il n'est plus libre de ses actes. Et en toute bonne conscience, il fait appel à ce moment-là à la vieille solidarité des souverains à l'étranger. L'Assemblée décide alors de fêter la prise de la Bastille par une grande fête. C'est la fête de la Fédération du 14 juillet 1790. Nous allons faire une dernière pause musicale. Nous sommes sur Radio Grand Ciel, je vous raconte la vie de Louis XVI et on en arrive à quelque chose d'important. On en est à la fête de la Fédération du 14 juillet 1790 pour l'anniversaire de la prise de la Bastille. Le roi n'a plus de pouvoir et il est coincé dans les Tuileries. Louis XVI et Marie-Antoinette, les enfants y assistent à cette fête. Talleyrand dit la messe, le roi prononce le serment d'être fidèle à la nation et à la loi, de maintenir de tout son pouvoir les articles de la Constitution. Il est acclamé. Une fois rentré, la famille royale et Fersen, qui ne la quitte plus, considère cette cérémonie comme ridicule et indécente. L'Assemblée décide à ce moment-là que les prêtres doivent devenir des fonctionnaires et qu'ils doivent prêter serment à la Constitution. Alors là, c'en est trop pour Louis XVI. Que font les puissances étrangères ? Avant de se décider à quelque chose, ben oui, qu'est-ce qu'elles veulent ? Elles veulent être certaines qu'il existe en France un parti royaliste qui soit puissante, capable de soutenir la monarchie. La lettre écrite par le frère de Marie-Antoinette, parce que Joseph II est mort, c'est son autre frère Léopold II qui devient empereur. Eh bien, la lettre est interceptée et transmise à l'Assemblée. Là, ça commence à sentir le roussi. Hein. À Paris, on ne parle plus que de la conspiration, de coalition. Les souverains, alors aidés de Fersen, pensent à s'enfuir. Alors, vous connaissez tous le voyage trop long, l'arrestation à Varennes. Malheureusement pour lui, Louis XVI, avant de partir, a laissé un manifeste où il dénonce l'anarchie qui règne en France depuis la réunion des États généraux. Il dresse un long réquisitoire contre l'Assemblée et donc il a décidé de se mettre en sûreté avec sa famille. Seulement, bien sûr, quand l'Assemblée lit ça, ben elle voit rouge. Deux émissaires sont envoyés à Varennes. Il faut reconduire la famille royale à Paris. C'est fait. Cette fuite insensée compromet définitivement le souverain aux yeux de ses sujets. À Paris, le peuple en colère a d'ailleurs gratté les fleurs de lys et les emblèmes de la royauté partout où il a pu la trouver. On traite le roi de gros cochon. Robespierre demande la déchéance d'un roi dont la duplicité vient d'éclater au grand jour. L'Assemblée, donc, suspend le souverain. On le place, lui et les siens, sous la protection d'une garde. En fait, on peut dire qu'ils sont prisonniers. Une partie de l'Assemblée souhaite qu'on institue une république. L'opinion générale est très hostile au roi. Le comte de Provence, le frère, hein, qui a réussi à se sauver à Bruxelles, lui, il se comporte comme s'il était le chef d'un gouvernement en exil. L'ensemble des souverains européens s'inquiète sérieusement et pour recouvrer la liberté, Louis XVI fait semblant d'accepter la Constitution tout en maintenant ses relations avec l'étranger. De nouvelles élections ont lieu pour succéder à l'Assemblée constituante. La nouvelle Assemblée va prendre le nom de législative. Elle est composée d'éléments jeunes, issus de la bourgeoisie. 264 députés sont partisans d'une monarchie modérée, 136 d'une république et 345 penchent tous d'un côté ou de l'autre selon la situation. Le roi ouvre la session de l'Assemblée, son discours est plutôt bien accueilli. L'Assemblée a demandé au roi de changer de ministère et il ne veut pas. Alors les heurts recommencent. À l'extérieur, les comtes de Provence et d'Artois, ses deux frères, alors, attaquent le nouveau régime. Exaspérés par les menées contre-révolutionnaires, l'Assemblée vote plusieurs décrets. Le comte de Provence est sommé de rentrer en France, même chose pour tous les émigrés. Le roi met son veto à ça. L'Assemblée décide que la patrie est en danger et qu'il faut déclarer la guerre aux émigrés, aux Autrichiens et aux Prussiens. Louis XVI a écrit à l'empereur, au roi de Prusse, au prince allemand, pour qu'il l'aide à rétablir son autorité. Le 20 juin, on parle dans Paris qu'il y a une conspiration, si bien que le peuple, à nouveau, se dirige vers les Tuileries, pénètre jusqu'au roi, sa famille, les injuries. Alors, je vous donne un petit exemple. « Tremble, tyran, ton heure est venue !» Ou alors « La sanction ou la mort !» Et la même furie se répète le 10 août. Roederer pense que le roi ne peut être en sûreté qu'à l'Assemblée. C'est un élu, hein. La famille royale se rend donc dans cette assemblée. Pendant ce temps-là, les Tuileries sont pillées, les gardes sont massacrées. Les députés, sous la pression de l'émeute, proclament alors la suspension du roi. On décide de transférer la famille royale au temple. En attendant que l'on statue sur son sort, la monarchie française est effondrée. La famille royale est installée dans le donjon et dans l'appartement du garde des archives. La surveillance est très étroite. Ce sont des vexations continuelles. Cependant, depuis la fin septembre, les passions semblent un petit peu calmées. Le 20, pourquoi ? C'est que les troupes révolutionnaires ont battu les Prussiens. Vous connaissez où ? C'est la fameuse victoire de Valmy. Une nouvelle assemblée élue, puisque la législative n'a duré qu'un an, s'appelle la Convention et elle veut juger Louis XVI. Robespierre lui déclare froidement: il faut le condamner à mort sur le champ. On discute encore de la légalité du procès de Louis XVI lorsque Roland Roland, c'est un député, le 20 novembre annonce la découverte de papiers compromettants pour l'ancien souverain. Il prouve les relations de Louis XVI avec les émigrés et avec les souverains étrangers. Le 11 décembre 1792, le roi, alors, est devant l'Assemblée. Il ment au sujet des papiers. Il retourne au Temple. Le 14 janvier 1793, l'Assemblée décide de poser aux députés trois questions concernant le roi. Alors, à la fin du compte, en résumé, 387 députés sont pour la peine de mort, sans condition. 334 pour la détention ou la mort conditionnelle. Le dimanche 20, le ministre de la Justice qui avertit le roi du verdict. Louis XVI demande à ce moment-là un délai de 3 jours pour se préparer et un prêtre. Il est autorisé à dire adieu à sa famille. Il passe une bonne nuit. Il entend la messe. On entend les cliquetis des armes, le roulement des canons. Parfaitement maître de lui, Louis XVI remet son testament au municipal Jacques Roux et il s'écrie « Allons, partons !» Il prend place dans une voiture fermée, entourée de gardes nationaux. Durant le parcours, Louis XVI lit les psaumes des agonisants devant les gendarmes complètement sidérés. Arrivé, le roi contemple l'échafaud, le regard assuré, le visage serein. Il ouvre lui-même son col et sa chemise. On lui lie les mains, on lui coupe les cheveux. De la balustrade, la tête haute, il crie d'une voix tonnante « Peuple, je meurs innocent, je pardonne aux auteurs de ma mort, je prie Dieu que son sang ne retombe pas sur la France. » On le met sur la planche, elle bascule. Il est 10h22. Au revoir à tous.